Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 16 octobre 1997 à Saint-Jeudard.
Ce qu'il a de plus profond. Tandis que l'intelligence y va pas à pas. C'est le propre de l'intelligence. Alors, je crois qu'à partir de Descartes, et Hegel, parce que c'est le gros problème de Hegel, lisez le dernier travail sur Hegel, et qui doit vous éclairer là-dessus, pas la première année peut-être, mais dès la seconde année, vous pouvez. Parce qu'on l'a dit plus d'une fois, Hegel joue sur la théologie moderne ce que Aristote jouait sur la théologie de ce temps, au Moyen-Âge. Il faut s'attaquer aux grands. C'est ceux-là qui sont intéressants. Parce que les autres, ils redisent, ils répètent. Donc ça n'ajoute pas. Donc le problème aujourd'hui, le plus fondamental, en face de cette déroute, on peut le dire, en face de cette déroute de la philosophie et de la théologie. Certains vont jusqu'à dire il n'y a plus de théologie. La théologie est finie. Comme on a dit, il n'y a plus de métaphysique. S'il n'y a plus de métaphysique, il n'y a plus de théologie. Et c'est quelque chose de juste. Il n'y a plus que de la description. Alors on décrit. Alors, je crois qu'en face de cette déroute, il y a d'une part, au point de vue de la foi, au point de vue de la théologie, entrer foncièrement, radicalement dans une théologie mystique. Si on entre à fond dans une théologie mystique, on voit le primat de l'amour, et que ce primat de l'amour ne peut pas exister et se développer sans l'intelligence. Parce qu'autrement, c'est l'imagination qui prend la place. Et ça devient une nécessité. On ne peut sauver la théologie que par une théologie mystique. Et deuxièmement, reprendre avec une très grande patience, reprendre la philosophie première, la métaphysique, la reprendre dans son itinéraire propre. Il y a un cheminement propre de l'intelligence qu'il faut découvrir. Et l'intelligence, là-dessus, est implacable. On ne peut pas se mettre, et si on est croyant, et si on a découvert vraiment ce qu'est le lien d'amour avec le Dieu créateur par le Christ, si on a découvert une théologie mystique, on ne peut pas être disciple de Hegel et se contenter d'une nouvelle théologie hegelienne, descriptive, dialectique. Mais c'est l'importance et l'intérêt de la situation dans laquelle on est. Quelque chose de très nouveau pour nous, c'est que Hegel a été si loin qu'on est obligé d'opter Hegel ou Aristote. Quand je dis ça, vous voyez, ce n'est pas impossible, puisque Hegel lui-même a choisi Aristote, mais à sa manière. Lui-même a reconnu que seul Aristote pouvait former. Et il l'a pris à sa manière. Et quelqu'un comme le professeur Bourgeois qui enseigne Hegel en Sorbonne m'a dit, je lui demandais un jour, j'étais très indiscret, Mais il fallait quand même lui poser la question. Pourquoi êtes-vous hégélien ? Il m'a dit, c'est le seul que j'ai trouvé qui était net, précis, et qui allait le plus loin possible. Je trouverai une philosophie qui aille plus loin et plus critique que Hegel, je la suivrai tout de suite, parce que je cherche la vérité. C'est beau d'entendre ça. C'est ça vraiment le sens philosophique. On a trouvé un très bon cheval, un pur sang. Hegel à sa façon est pur sang. Je le prends. Tous les autres, ce sont des mixtes, des mulets. Le mulet est un fécond, vous comprenez? Alors c'est ça. Rien du tout. Et il faut avoir le courage d'aller plus loin et de revenir à la source cachée. Et la source cachée, c'est Aristote. Je crois. C'est le seul qui domine et qui en même temps va le plus loin. Et avec Aristote, regardez Thomas d'Aquin, Hegel. Alors, ici, nous ne regardons pas la théologie mystique, mais regardons dans d'autres cours. C'est pour ça que je suis persuadé que pour nous, après Hegel, c'est d'une part la théologie mystique et d'autre part la métaphysique. L'importance de la théologie de l'art, parce qu'elle est première génétiquement pour nous. Donc l'aspect premier génétique est important parce qu'il nous montre en pleine lumière le point de vue du conditionnement humain. Le premier génétique est toujours du côté du conditionnement humain. Et le premier en nature, en perfection, c'est celui qui regarde la finalité. Vous êtes très, très attentif à ça. Dans le haine arché, il faut comprendre qu'il y a le haine arché selon le conditionnement humain. Il y a le énarché dans le principe, au commencement et dans le principe. Il faut trouver ce qui est premier. Alors, pour Aristote, c'est très net. Il faut qu'arriver que pour nous, petit à petit, on ne soit pas disciple d'Aristote, parce qu'il est très grand, très vénérable, et être disciple d'Aristote, parce que c'est la vérité qu'il cherche, et que c'est cette vérité que nous cherchons. Si une philosophie réaliste est la seule qui nous permet de découvrir la vérité, parce que elle regarde la réalité existante, toutes les réalités existantes, comme ceux qui s'imposent à nous. C'est le réel qui s'impose à moi. Ce n'est pas l'imaginaire, c'est le réel. Et ce réel, je le saisis dans un acte de foi. Mais c'est un réel divin. Et je le saisis par mon expérience. Mon expérience fondamentale, pas n'importe quelle expérience. Pour l'éthique, l'expérience fondamentale, c'est l'amour d'amitié. Et l'éthique revient toujours à cela. Ce qui est vrai dans ma vie humaine, au point de vue moral, c'est tout ce qui est vers l'amour, ou dans l'amour, ou de l'amour. Ce qui est premier en logique, c'est l'universel. Voyez, essayez vous-même de mettre tous les premiers. C'est très joannique, hein, énarqué. Alors, il y a une grande page énarquée au point de vue de la foi chrétienne, au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, éthique, philosophie de l'art. Ça, c'est très beau à faire. Faites-le vous-même. Une demi-heure d'examen de conscience philosophique. De découvrir ça. Et puis, l'ayant découvert, posez-le à ceux qui sont vos frères aînés. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Parce que l'erreur dans le principe, dans le énarqué, a d'immenses conséquences dans le terme. Et ça, c'est vrai. N'avez qu'à penser à une conduite le soir en auto dans un pays que vous ne connaissez pas, parce que tout est très bien indiqué quand on connaît la route et tout est très mal indiqué quand on l'ignore. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça, c'est à cause de l'abstraction. C'est une expérience qu'on a tous fait dans sa vie. On n'y a pas assez réfléchi aussi. Alors, quand vous quittez une grande route pour prendre un petit sentier, vous comprenez qu'au point de départ, il y a peut-être très peu de distance à côté du premier sentier qu'on prend à droite. Celui qui vous conduit dit, tu prendras à droite dès le premier tournant. Oui, il le fait. Mais il oublie qu'en réalité, c'est pas le premier, c'est le second. Parce que le premier n'était pas encore indiqué sur sa carte, que sa carte était vieille. Et c'est comme ça. Et alors, l'erreur au point de départ n'est pas très grande. C'était à un kilomètre, pas grand-chose. Une heure après, quand on a pris le sentier, l'erreur est beaucoup plus grande. On regarde la carte. Et comment ça se fait? J'aboutis là. C'est pour ça que c'est très important dans la vie intellectuelle, dans ma vie tout court, ma vie humaine. L'erreur du point de départ a d'immenses conséquences pour tout le reste. Et je reviens tout le temps à mon point de départ, en philosophie. Si la philosophie est sagesse, l'alpha et l'oméga se touchent. Le point de départ et le terme se touchent. Alors, quel est mon point de départ? Puisque c'est la réalité qui est mesure de ma vie intellectuelle. Je suis vrai lorsque ce que je dis est conforme à la réalité. Et parmi toutes les réalités que je connais, c'est l'homme. La plus parfaite. Je ne vais pas faire une philosophie à partir du lion. Alors, ce serait très intéressant puisque c'est le roi des animaux, donc c'est déjà quelque chose. Non. Il n'y a pas de réponse. Tandis que l'homme, il y a une réponse. Il répond à mon expérience de l'homme. Mais il n'y a que l'ami qui me répond. De façon vraie. Quelqu'un qui n'est pas mon ami peut répondre complètement à côté. Et parmi toutes les expériences que j'ai de l'ami et de moi, mon ami existe. Il est. Et il est autre que moi. C'est une chose très extraordinaire. Et je peux le connaître tel qu'il est, et non pas en projetant sur lui ce que je suis. C'est la grande maladie, ça. Je te connais parce que je me connais. Hein ? Le jour où vous pourrez dire que cela n'est pas vrai pour vous, vous aurez fait un progrès énorme. On projette si vite sur l'autre. J'ai fait cette expérience. Tu es en train de le faire. Oh, pas du tout. Il a tout à fait un autre itinéraire. Je découvre que l'ami est autre que moi dans son existence. Ah, il y a des quantités de points communs. Il parle, je parle. Il aime, j'aime. Il a de l'imagination, j'ai de l'imagination. On se retrouve. Il y a quelque chose où il est autre que moi. Et dès le point de départ, si mon ami c'est moi, je regrette, vous n'avez plus d'amis. Et ça, c'est la tentation terrible d'aujourd'hui. Le psychologisme. Mon ami, c'est moi. Mais non. Votre ami, c'est justement celui qui n'est pas vous. Et qui peut vous apporter quelque chose parce qu'il n'est pas vous. S'il était vous, il ne vous apporterait rien. Et vous êtes plus capable de vous connaître, vous, que de connaître votre ami, si votre ami c'est vous. Vous êtes farouche là-dessus. Et ça, on peut être farouche. Dès qu'on comprend que la vérité, c'est d'atteindre l'autre. Lévinas, aujourd'hui, a très bien senti ça. Il l'a senti avec une très grande acuité, mais il n'a jamais pu l'utiliser jusqu'au bout, parce qu'il avait une méthode phénoménologique. Et ça, c'est vrai. Jamais saisir l'autre comme celui qui vous dépasse. Tant que vous n'avez pas compris que votre ami avait quelque chose qui vous dépassait, vous n'avez pas découvert votre ami. Vous avez vu la similitude avec vous? Ah, il est merveilleux. Tout ce que je dis, il le comprend et il l'approuve. Et le jour où votre ami dit « Ah, je te comprends pas, non, non, c'est pas ça, ah, c'est plus mon ami. » Mon ami, c'est celui qui est mon écho, il me répète. Il dit exactement ce que je dis, c'est merveilleux ça. On est deux, il y en est un, il y en est plus un que deux, puisqu'au bout d'un certain temps, les deux disparaissent, on n'est plus qu'un. À ce moment-là, l'ami est l'écho. L'ami, c'est pas ça, c'est l'autre qui existe, autre que moi. Pour découvrir cela, il faut découvrir. Oui, je parle d'un exemple courant. L'amour d'amitié est très important pour l'éthique, indispensable. Je ne peux faire une véritable éthique que dans la mesure où je comprends pleinement l'ami, comme ami. Et je ne peux découvrir l'être, ce qui est, qu'à travers cette expérience de l'amour d'amitié, en allant jusqu'au bout, en dépassant la similitude, en dépassant ce qu'il y a de commun et que je découvre l'autre dans ce qu'il a de transcendant. Oui, comme c'est curieux, la découverte de ce qui est transcendant, c'est-à-dire de ce qui n'est pas moi et qui est au-dessus du moi, qui est plus que moi, c'est ça la transcendance. Le bourreau ne saisit jamais la transcendance, il la réduit à lui. Et la manière dont il agit, c'est très simple, c'est de réduire l'autre qui l'on sert avec des bras de fer. J'ai pas l'expérience, mais je sais comment il fait. Il faut surtout pas se laisser prendre, parce que dès qu'on est pris, c'est fini. L'immanence, c'est le bois, certes, qui prend tout. Si je n'ai pas découvert dans l'ami l'autre qui existe, qui est, et qui est autre que moi, et qui en tant qu'il est autre que moi, me transcende, me dépasse. Je n'ai pas saisi l'être. L'être se manifeste à moi quand je le touche, quand je le connais, comme ce qui me dépasse. Irréductible à moi. L'ami est irréductible à moi dans son existence. C'est pour ça que la véritable amitié s'exprime toujours dans le respect. Le respect de l'autre. Si il n'y a plus de respect, c'est parce que justement, j'ai considéré que la similitude, l'immanence était première. Et c'est intéressant de bien saisir cela. Sartre, dans Situation, fait cette critique à la scolastique. La scolastique, c'est la philosophie de l'assimilation. Il ne dit pas scolastique, mais on sait bien que c'est la scolastique. C'est la philosophie de l'assimilation. Le thomisme, c'est la philosophie de l'assimilation. Alors que la philosophie, c'est découvrir l'autre qui existe. Et c'est ça, la vraie philosophie. Dans l'assimilation, le respect à l'égard de l'autre n'existe pas. C'est le respect que vous avez pour vous, que vous projetez. Cela est vrai, il y a quelque chose de vrai, mais ce n'est pas l'aspect ultime du respect. L'aspect ultime du respect, c'est de considérer qu'il y a quelque chose dans l'ami qui me transcende, qui me dépasse. Qu'est-ce qui me permet de toucher cela et de connaître? C'est le jugement d'existence. Ceci est. Je l'ai dit, ça c'est capital. De redécouvrir cela. Que c'est de fait ce qui est la condition sine qua non de toute véritable expérience. Si je prends expérience comme le point de départ de l'éveil de mon intelligence s'éveille. Curieux de regarder l'éveil de l'intelligence. Eh bien, la métaphysique regarde l'éveil de l'intelligence. Et pour pouvoir regarder l'éveil de l'intelligence, il faut être éveillé là. Et vous découvrez que l'intelligence s'éveille en disant ceci est. Et dans le ceci est, le ceci, je le montre. C'est la réalité existante, c'est l'ami. Ceci, c'est l'ami, il est là. Et, ah, c'est au-delà du ceci. Ceci, c'est ce que j'assimile. C'est n'importe quoi. C'est la réalité que je vois, que je peux décrire, le ceci. C'est l'homme et c'est tous les hommes. Tandis que quand je saisis dans le ceci, l'être, je vois que dans le ceci, il y a quelque chose qui est original, il existe, il est. Et l'originalité la plus grande que nous avons, c'est dans notre exister. Je suis unique dans mon exister. Et je pourrais dire au terme de ma philosophie, de ma métaphysique, je suis unique dans mon exister avec Dieu, mon Créateur. Il n'y a que mon Créateur qui connaît parfaitement cette transcendance que j'ai en moi, parce qu'il la dépasse, lui. Il transcende tous les êtres créés. Il est au-delà. Et je vois donc bien, vous voyez le point de départ et le terme de ma métaphysique, l'alpha et l'oméga. Et il n'est nulle part ailleurs. Si vous prenez comme point de départ de la métaphysique l'homme, ce que fait la psychologie, l'homme, au terme de ma métaphysique, si vous restez dans l'immanence, vous direz c'est encore l'homme. Mais vous oubliez que l'homme n'est pas toute la réalité. Vous oubliez que l'homme n'est pas le lion, n'est pas l'aigle, n'est pas le taureau. L'homme n'est pas tout. Alors, et vous prétendez que la métaphysique doit regarder la réalité dans sa totalité pour la connaître. Et donc, il y a autre chose. Et vous avez oublié le principal. C'est que l'homme lui-même est totalement relatif dans son être. Un être premier. important de comprendre que quand vous posez le jugement d'existence, ceci est, vous découvrez quelque chose qui vous dépasse et qui ne peut pas se comprendre par vous. L'être ne se comprend pas par l'homme. L'être ne se comprend pas par l'homme, parce que l'être, il est par lui-même. Et donc, il n'est pas relatif à l'homme. Alors, il est relatif à quoi? À l'être. Il est. Mais l'être que je découvre dans le ceci, l'être que je découvre dans le ceci, n'est pas tout l'être, puisqu'à côté de ce ceci, il y a tous les autres ceci. Et donc l'être n'est pas réductible à ceci. Il le dépasse. Ceci peut être un animal, peut être l'homme, peut être un objet d'art, peut être n'importe quoi. L'être n'est pas réductible au ceci. Il le transcende. Il le dépasse. L'être a une universalité dans sa signification qui est quasi infinie. Vous ne pouvez pas mettre de limite, vous, dans l'être. Vous limitez l'être à votre expérience. Mais votre expérience, elle n'est pas terminée. Tous les jours, elle peut s'intensifier. Et tous les jours, vous pouvez connaître mieux et d'une façon plus profonde l'affirmation « ceci est ». Par vous, vous vous connaissez mieux tous les jours. Et vous connaissez mieux l'autre, l'ami. Vous ne pouvez pas dire à l'ami, maintenant je te connais, je te laisse tranquille, je n'ai plus rien à apprendre de toi. Si vous dites ça à l'ami, vous le relativisez à votre connaissance. Et vous oubliez que l'ami existe indépendamment de vous. Quand l'ami dit ça à son ami, l'ami n'a plus qu'à lui répondre, va-t'en, tu crois que tu es tout? Eh bien non. Je le sais mieux que toi, parce que je le sais d'une façon plus objective que toi. Toi, tu crois que l'être est relatif à toi, et que c'est toi qui es la mesure de l'être. Tu ne l'es pas. Tu existes au milieu des autres. Tu es au milieu des autres, mais tu n'es pas premier. La preuve, c'est que dans mon être, je ne dépends pas de toi. J'ai existé avant toi, si je suis plus vieux. Alors j'ai ce privilège pour vous. Donc, point de vue métaphysique, je peux vous dire. Mon être est indépendant de vous. Et quand vous dites ceci et vous dites tout ça, si vous voulez comprendre la signification, on le dit tellement vite qu'on n'y pense plus. C'est tellement banal. Ceci est, mais c'est tellement profond. Mais or, l'homme n'aime pas la banalité, surtout aujourd'hui. Alors, parce qu'il n'aime pas la banalité, il croit que quand je dis que ceci est, je tombe dans la banalité. Mais non, c'est la plus grande originalité. Oui, il faut, au point de départ, philosophie, de ma métaphysique, comprendre, expliciter, mais en acte, par moi-même, en le répétant. L'être ne se répète pas, comprenez. C'est le ceci qui se répète. C'est la cruche. La répétition, c'est toujours de l'ordre de la cruche. Ça se répète. Ça n'a plus aucune... aucune originalité. Ceci est toujours original. Le ceci de l'araignée. J'ai vu une araignée ce matin. C'est pas bonheur, paraît-il, n'est-ce pas? J'ai vu une araignée. Son existait. Je la connais pas. Comment existe une araignée? Comment existe? Mais toutes les réalités, c'est une originalité folle quand tu dis que c'est commun. Mais non, c'est l'originalité du ceci qui apparaît à travers toutes les réalités qui se multiplient quasi à l'infini. Et saisir l'originalité de l'être dans sa transcendance vis-à-vis de moi. Et chaque existé a quelque chose que je n'ai pas. Alors ça montre que la métaphysique, elle se renouvelle tout le temps. Elle s'approfondit tout le temps. Elle s'étend tout le temps. Parce que je regarde l'être en tant qu'il est. To on et on. Et je vois que cette parole d'Aristote, oui, c'est pas parce qu'Aristote le dit qu'elle est intéressante. C'est parce qu'elle exprime un point de départ de la partie ultime et dernière de la philosophie qui s'intéresse à l'homme. Ce qu'il y a de plus intéressant dans l'homme, c'est qu'il est. Il est de telle façon, c'est ce que nous essaierons de voir. Il est, il faut comprendre la richesse de ça, le toi-néon. Parce que, si je regarde attentivement l'être à l'homme, j'aboutirai à la source de son être, Dieu. Comprenez ce que je veux dire. Dieu, l'être premier, est plus proche de l'être que de l'homme. C'est sûr. Puisque l'être, je le vois partout. L'être premier, eh oui, il est premier par rapport à tous les êtres. Il est premier par rapport à tous les êtres. Et donc, tout ce qui est a une relation privilégiée avec l'être premier. Je dis au point de départ, s'il existe, puisque je n'ai pas encore déterminé qu'il existait, mais s'il existe, c'est ça qui est extraordinaire. S'il existe, tous les êtres ont une relation privilégiée avec l'être premier. Tandis que l'homme comme homme à une situation privilégiée à l'égard de sa source. Sa source, c'est quoi? Par rapport à son corps, ben oui, c'est ses parents. Il a là une situation unique, privilégiée. Alors est-ce que je peux avoir une situation privilégiée analogue à l'égard de celui qui est source de mon être? Je pose un point d'interrogation. Et qui est là pour exciter ma curiosité? Est-ce que je peux découvrir cette situation privilégiée de l'homme avec l'être premier, qui est sa source, s'il existe? Alors à ce moment-là, la métaphysique devient passionnante. Tant que je n'ai pas découvert philosophiquement l'être premier et la situation particulière que j'ai avec l'être premier, je suis un orphelin au plan métaphysique. Je n'ai pas découvert ma source. C'est un volant. Alors que je peux la découvrir. Je n'ai pas découvert ma source. Et c'est une possibilité de découvrir ma source, de mon être, et de découvrir la situation privilégiée que j'ai avec l'être premier. Mais c'est étonnant, ça. C'est plus intéressant que tout le reste. Tout le reste pâlit en face de cet intérêt de découvrir cette situation unique que j'ai. Or, si je suis croyant, je sais que l'être premier existe. Je sais qu'il m'a créé, moi, d'une façon unique, pour que je manifeste d'une manière unique ce qu'est l'être premier. Alors ça devient très intéressant. Bon, alors ce que ma foi me dit, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la vérité? Ma foi me dit que c'est la vérité. Mais comment puis-je montrer à quelqu'un qui n'est pas croyant que c'est vraiment la vérité? Qu'il y a en moi quelque chose qui dépend directement du Créateur, de Dieu. Et donc que j'ai à l'égard de Dieu un privilège que le lion, si digne qu'il soit, n'a pas. Que seul l'homme a. Les anges, si les anges existent, au plan philosophique. Tout être spirituel a cette relation avec Dieu. Est-ce que c'est par l'esprit ou par son être? Grave question. Est-ce que mon esprit, par lequel je peux réfléchir et faire de la philosophie, et me poser cette question, et que cette question a pour moi un sens? Ai-je une situation privilégiée dans mon exister avec Dieu, avec l'être premier, avec le Créateur? Est-ce que j'ai cette situation unique? Cette situation unique, est-ce que je peux la partager avec mon ami? Est-ce que à ce moment-là, ma relation avec mon ami va prendre une nouvelle dimension extraordinaire? Nous allons pouvoir ensemble partager cette situation unique, mais la partager en la gardant au plus intime de moi-même, parce que je ne peux pas la partager en la communiquant pleinement. C'est mon être qui a cette situation unique avec Dieu. C'est quand même quelque chose de formidable, ça. Et je peux la partager avec mon ami comme notre grand secret. Et si nous sommes deux à la vivre grâce à l'ami, nous la vivons beaucoup mieux. Parce que l'ami la reçoit autrement que moi. Mais c'est ce même secret. Vous voyez comment l'être, dans le jugement d'exister, apparaît comme le secret le plus intime de moi-même, de mon intelligence, et je dirais de mon amour. Parce que cet être premier, s'il existe, si c'est mon Créateur, il m'a créé d'une manière absolument libre et d'une bienveillance unique. Je n'ajoute rien à l'être premier. Je ne peux rien ajouter à l'être premier. C'est donc dans une gratuité absolue que je suis. Et je me pose toutes ces questions-là à partir du jugement d'existence. Oui, si vous ne vous posez pas toutes ces questions à partir du jugement d'existence, vous ne saisissez pas l'importance unique de ce jugement. Et vous comprenez pourquoi ce jugement d'existence peut être au point de départ de cette enquête mystérieuse voyage extraordinairement mystérieux. L'immense avantage, c'est que ne coûte rien. Et l'immense avantage, c'est que on peut le faire 1000 fois dans sa vie. Et chaque fois, il est nouveau. Et il est le même. Ceci est. Et je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que sa signification. Et toute l'année, on frappera à ce jugement d'existence, ceci est, pour en comprendre la profondeur unique. Et dans la mesure où je le comprends, je m'éveille. Elle copie celle des autres. Mais le jour où j'ai découvert ceci est au plus intime de moi-même, mon adoration est la conséquence immédiate de cela. J'adore celui qui est la source de mon existence.